Voilà, bonsoir, si, bonsoir, bon, bonjour plutôt, c'est pas encore la soirée. Donc si vous voulez prendre place, on va continuer nos travaux. Donc ce matin, nous avons eu des conférences sur l'archéologie, aussi sur l'interprétation de la stèle de Mécha dans le cadre de l'idéologie royale, et puis... un texte, donc, ou le texte de Roi III qui nous a été présenté. Et ceux qui ont suivi, vous avez vu que la stratigraphie des exégètes est aussi compliquée que la stratigraphie des biblistes, des archéologues, pardon. Voilà, donc cet après-midi, nous allons poursuivre, donc, d'abord avec une conférence qui va nous mettre un peu en contexte. Le phénomène d'une stèle, qu'est-ce que c'est une stèle? Parce que bah, on parle toujours de la stèle de Mécha, mais voilà, on la regarde parfois un peu de manière isolée. Et je suis très heureux que Vincent Blanchard, donc conservateur au Louvre des Antiquités orientales, a accepté de nous parler, bien qu'il a un agenda très chargé. Peut-être il vous dira un mot. Il prépare, donc ça, je peux déjà faire un peu de pub. Il prépare une exposition qui commencera.
Le 2 mai 2019.
Le 2 mai. Et le titre exact, je ne sais pas.
Alors, on l'a intitulé « Royaumes oubliés, les héritiers de l'Empire hittite ».
Voilà, donc c'est sur la... Voilà, la comment dire l'Empire hittite... Non, plutôt en fait sur l'arrière-histoire un peu de l'Empire hittite. Voilà, donc il va nous parler donc, des stèles au Levant à l'âge du fer et donc qui nous permettront donc, d'avoir des éléments de contextualisation pour la stèle de Mécha. Merci encore, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors en fait, le titre est un peu réducteur par rapport à ce dont je vais vous parler, puisqu'il a été donné au tout début, avant que je me plonge dans ces questions. Donc effectivement... L'idée, c'est un peu de parler des stèles au Proche-Orient, des stèles de commémoration, des stèles royales, et de voir un peu quelle est leur utilité, leur fonction, mais aussi la forme qui est, je dirais, associée à ces monuments. Donc, la stèle, donc le mot désigne une pierre dressée, ce qui est effectivement le cas pour la stèle de Mécha, ouvragée. C'est effectivement le cas ici. Vous avez ce très beau... bon, déjà, cette très belle forme cintrée, assez typique d'ailleurs des stèles commémoratives, avec un large bourrelet sur le côté de la stèle. Alors, s'il y a un détail qu'il faut remarquer et qui malheureusement n'aura pas de réponse ici parmi d'autres questions, c'est évidemment la partie inférieure de la stèle de Mécha, qui là est restituée, mais qui n'est pas exacte. Et vous verrez d'ailleurs que les nombreuses stèles proche-orientales que nous allons voir ont des formes extrêmement différentes, mais malheureusement pour la stèle de Mécha, on ne peut pas vraiment savoir comment elle était posée ni insérée, d'ailleurs dans quoi, dans quel monument. Là aussi, des comparaisons pourront nous aider à imaginer son installation avant qu'elle soit retrouvée bien plus tard. Alors, les stèles portent généralement une inscription et ou une image. Là aussi, on s'y intéressera. La stèle de Mécha, étrangement, ne porte pas d'image, alors que effectivement, on pourrait, dans le contexte dont nous reparlerons du pays de Moab, elle pourrait très bien, comme la plupart des stèles que nous allons voir, porter en partie supérieure une image, la dédicace au dieu, comme cela se fait assez régulièrement. Mais là, nous avons une stèle qui n'est couverte que de textes, et on verra que ce n'est pas la seule au Proche-Orient, et que même très tôt, on avait déjà des stèles uniquement textuelles, dans des contextes qui ne mettaient pas spécifiquement en valeur l'aniconisme. Donc voilà. Mais en tout cas, ça montre l'importance symbolique du contenu textuel de ces stèles. Alors, on va remonter loin, hein. Et encore, je me limite à l'âge du bronze, mais L'idée, c'est un peu de vous montrer donc ce que on pourrait considérer comme étant la première stèle royale du Proche-Orient, avec donc la fameuse stèle de la chasse d'Uruk, représentant deux personnages ou le même personnage dans deux actions différentes. Là aussi, c'est une très forte possibilité. C'est ce personnage que les archéologues ont surnommé le roi prêtre, ce personnage qui serait à la tête de la société proto-urbaine d'Uruk en Mésopotamie. Il est reconnaissable par son bonnet à large bord, sa barbe ronde et cette espèce donc de jupe qui, dans certaines activités, levait, mais pas systématiquement. Il est en train de s'attaquer à des lions qui, bien plus tard en Mésopotamie, sont la manifestation des forces du chaos que le roi se doit de maîtriser. Et nous sommes peut-être ici, dès l'époque proto-urbaine, dans ce même type de représentation, le roi luttant contre un ennemi terrifiant, le lion, et peut-être une portée symbolique au-delà de la simple chasse de ces animaux qui devait représenter une menace. En haut, le roi enfonce une lance dans la gorge du lion, et en bas, il tire à l'arc. Deux flèches sont déjà plantées dans la tête du premier lion et trois flèches dans la tête du second. Donc évidemment, c'est quelque part une stèle de victoire contre les forces du mal et les forces du monde sauvage surtout. Peu de temps après, à la même époque, en Égypte, alors oui, je vais parler de l'Égypte parce que vous le savez bien évidemment, le Levant Sud a été conquis par l'Égypte au bronze récent, et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de l'influence possible des monuments égyptiens sur les monuments de l'âge du fer au Levant Sud, puisque vous allez le voir, certains ont été faits sur place par des artistes égyptiens. Donc les premières stèles en Égypte sont des stèles à caractère funéraire. Et c'est également le cas de la très belle stèle de Wadji, le roi serpent, qui est conservée au musée du Louvre. Elle a été découverte dans la nécropole d'Abydos. Et c'est une stèle qui combine images et textes, puisque finalement le texte, il est ici, c'est le nom du roi, sous la forme du serpent, le signe G, dans son palais. Vous avez ici la façade du palais et au-dessus donc le plan, l'intérieur du palais, et au-dessus bien évidemment la manifestation d'Horus qui, à cette époque-là encore, était le protecteur de la première dynastie. Mais ici nous sommes dans une stèle funéraire. Sachez que les stèles ont plusieurs fonctions relativement, je dirais, perméables les unes avec les autres. Vous avez la stèle de commémoration comme la stèle de Mécha, la stèle funéraire comme ici la stèle du roi serpent, et évidemment donc des stèles cultuelles, mais je vous dis ces trois fonctions s'interpénètrent. Alors la première stèle véritablement commémorative d'un événement historique, eh bien, c'est la stèle des vautours, dont vous avez ici une photo du moulage, tout simplement parce que le moulage est plus complet que l'original qui a été, après sa découverte, endommagé. Sur l'original, malheureusement, vous n'avez plus le haut de la tête du dieu Ninigirsu. Et le texte est plus endommagé, d'ailleurs, sur l'original. Ce moulage, de même que l'original, sont conservés tous les deux au musée du Louvre. Ils ont été découverts à Tello, donc en Irak, et font partie de ces monuments essentiels pour la redécouverte de la culture sumérienne. Alors, c'est une stèle qui commémore la victoire du roi Eannatum contre la ville voisine d'Oumma. Les habitants d'Oumma, en fait, ne cessaient de déplacer un monument qui servait de borne frontière. Et effectivement, donc, Oumma et Lagash se disputaient une bande de territoire. Et comme les négociations des diplomates n'ont pas eu de succès, eh bien, il y a eu une guerre frontalière entre Oumma et Lagash. Et la stèle donc commémore la victoire d'Eannatum avec un assez long texte qui se trouve en fond d'une représentation figurée. Alors, la stèle est sculptée sur ses quatre faces. Mais là, évidemment, je ne vous présente que les deux faces principale, puisque les faces latérales sont extrêmement fines, mais elles montrent aussi des défilés de guerriers. Alors, sur la face dite historique, vous avez plusieurs registres montrant le roi partant à la bataille. Alors, bien entendu, on n'est pas là dans une stèle narrative. Elle ne nous raconte rien. Elle nous donne l'idée de la victoire, puisque, vous voyez, le roi ici est représenté devant ses troupes marchant vers les ennemis, mais en fait, il marche sur le corps des ennemis, et en face, les ennemis sont rassemblés en tas, et les vautours sont déjà en train de les dévorer. Donc, évidemment, on n'est absolument pas dans une représentation narrative, mais on nous donne l'idée de la victoire à plusieurs reprises. Vous voyez ici, le roi n'est plus marchant devant ses troupes, mais sur un char avec sa lance qu'il, vraisemblablement, comme sur le registre inférieur, va planter dans la tête du roi ennemi. Et au milieu, vous avez des rituels. Ici, le roi est en nudité rituelle devant, vraisemblablement, la statue de Ningirsu. Et derrière, on est en train d'enterrer des morts. Alors, probablement les morts de chez nous, c'est-à-dire de Lagash. Mais il y a des gens qui pensent que, d'après certaines mentions du texte, on enterrait les ennemis aussi. Donc mais là, bon, on peut imaginer que nous sommes après le conflit et on remercie Ningirsu pour la victoire. Ningirsu qui, sur la face dite mythologique, est représenté ici, tenant dans un filet les ennemis et avec sa massue frappant lui aussi le roi ennemi. Derrière, il y a une déesse qui est représentée, peut-être Ninrursag, sa mère, et en dessous une autre scène avec un char. Et donc là, véritablement, on a cette première commémoration d'un événement guerrier. Là, on reprend un territoire. Et d'ailleurs, la stèle ne fait pas que parler de l'événement guerrier, pourtant en termes assez durs. Hein, moi et Anatoum, comme un mauvais vent d'orage déchaînait la tempête. C'est comme ça un peu dans les débuts. Mais après, c'est également un traité de paix où chacun des rois assure des serments pour ne pas passer la frontière et ne pas détruire les monuments placés à la frontière, vraisemblablement d'autres stèles. Alors, plus proche, en Syrie, à la même époque, vous avez donc les stèles du Djebelet El Beida, au nord de la Syrie, pas très loin du Rabour. Alors, ces stèles sont purement figuratives. Elles sont assez grandes, elles font plus de 3 mètres de hauteur. Et il y avait à peu près 5 stèles et des statues colossales qui leur faisaient face, comme la restitution vous le donne ici. Et ces stèles sont placées sur une plateforme d'à peu près 20 mètres de côté, sur une petite colline. Donc vraiment, là, on est aussi dans un espace assez visible de très loin. Et du coup, nous n'avons malheureusement pas de texte qui accompagne l'image et les personnages. Personnages vêtus donc de vêtements à mèches de laine qui rappellent la Mésopotamie et qui permet de dater grosso modo ces stèles des années 2700 avant Jésus-Christ. Et la question, en fait, qui, me semble-t-il, n'a pas été tranchée, c'est: est-ce que ces stèles représentent là aussi une victoire, avec probablement le roi armé d'une massue sur un défilé d'ennemis qui ont été capturés? Et donc, ce qui est vraisemblablement la même représentation de l'autre côté de la stèle qui a été endommagée. Ou alors, est-ce que ce personnage est une divinité et que ce sont ses adorateurs en dessous? Et du coup, est-ce que nous avons affaire ici donc à un lieu de culte où les populations nomades se rendent régulièrement, ou au contraire à la commémoration d'un événement, d'une bataille, avec des stèles posées à une frontière. Je ne connais aucune réponse assurée à cette question. Alors, sous l'Empire d'Akkad, on a encore de très belles stèles de commémoration de victoire. Voyez que là, par contre, on a abandonné le découpage en registre. La stèle n'est figurée que sur un seul côté et elle représente Naram-Sin, donc roi d'Akkad, qui lutte contre les Lulubis, les montagnards de Zagros, qui descendaient régulièrement faire des razzias dans la plaine mésopotamienne. Et le texte ici est extrêmement réduit. Alors malheureusement, à cause de la desquamation de la pierre, il n'est plus lisible. Le texte que vous avez ici est celui de Shutruk Narunte, qui, plus d'un millénaire après, a récupéré la stèle pour l'emmener à Suse. Et donc le texte de victoire de Naram-Sin, malheureusement, est illisible. Mais on a un peu cette même idée qu'on avait sur la stèle de... Comment dirais-je, sur la stèle de victoire des Anatoum, c'est, vous le voyez, le roi, alors là par contre, qui est représenté plus grand que nature, et avec des cornes, c'est-à-dire qu'il est déjà divinisé, à la tête de ses soldats, devant des ennemis qui sont déjà en train d'agoniser avec leurs lances brisées, etc. Donc là encore, on nous figure l'idée de la victoire au travers d'éléments clés dans la composition. Alors, d'autres pierres dressées existent dans ce monde syro-mésopotamien et il y a notamment les premières formes de ce que André Parot, quand il le découvre dans le temple de Ninizaza, appelle un bétil. Alors, ça a été très vite contesté, parce que bon, déjà, l'appellation bétil est beaucoup plus jeune de deux millénaires au moins. Donc, en fait, on a proposé que ce soit une pierre tombale, elle avait été retrouvée à l'horizontale, mais là non plus, c'est absolument pas convaincant. Et il y a des textes assez anciens à Marie qui parlent de pierres de basalte que l'on va chercher. Donc, c'est manifestement une pierre taillée et dressée, rappelant la forme d'une stèle. Est-ce qu'elle commémore quelque chose ? Elle est manifestement liée au culte, puisqu'elle a été découverte dans le temple de Ninizaza. Mais attention, elle est installée à l'emplacement des offrandes et pas dans le Saint des Saints derrière où se trouve la représentation de la divinité. Donc, elle n'accueille probablement pas, comme ça le sera le cas plus tard, la divinité, mais cette pierre dressée est en lien en tout cas avec le culte comme offrande ou peut-être là encore comme remerciement ou commémoration d'un événement qui n'est absolument pas... noté. Toujours en Syrie, on retrouve des exemples de ces stèles à registre qu'on a vues avec la stèle des Anatoum, la stèle des Vautours. Mais là, ce fragment de stèle, la stèle de Halawa, alors je ne sais pas du tout où elle est conservée, mais peut-être que Michel El-Magdissi peut nous le dire.
Elle est à Alep.
Elle est au musée d'Alep, d'accord.
Elle a passé un petit peu à Damas, mais...
D'accord. Et donc cette stèle figure plusieurs registres. Et là, nous ne sommes pas du tout dans un monde guerrier. Vous le voyez, on a manifestement un taureau sur cette partie conservée au-dessus. Ici, on a un défilé de femmes avec des nourrissons dans les bras. Ici, on a deux chèvres autour d'un arbre. Ici, une scène qu'on retrouvera bien plus tard dans les ivoires assyriens d'un veau sous sa mère. Et là, deux guerriers, manifestement. Et en dessous encore, une scène évoquant un labour, tout simplement. Donc, quelque part, une représentation de la société. Et tous les êtres humains, en tout cas, regardent dans une direction, vers la gauche, et vraisemblablement, on peut imaginer la présence du souverain qui regarde, en fait, l'ensemble de la société qu'il dirige, peut-être, là c'est extrêmement anachronique, mais une sorte d'effet du bon gouvernement sur l'ensemble de la... de la société. Mais vous voyez, donc, ces stèles aussi, finalement, ne commémorent pas que des actes guerriers. Bon, je passe rapidement sur la stèle d'Ournamou. Et nous avons également, plus tard, bien plus tard, à la fin, donc, justement, à la fin du bronze récent, dans la Babylonie cassite, un tout nouveau type de stèle, ce sont les koudourous. Et ici, vous avez l'un des plus beaux exemples que nous ayons, le koudourou de Menichipak II. Ces stèles portent, d'ailleurs j'aurais dû vous mettre la photo du dos, qui est entièrement écrit, et qui est un contrat de cession de terre, de ces rois cassites qui ont pris donc justement le pouvoir à Babylone. Et derrière la stèle, derrière le texte, eh bien, vous avez l'ensemble des divinités qui vont justement garantir que ce contrat perdurera, on le suppose, à jamais, puisque là vous avez donc une idée du panthéon mésopotamien, avec donc les trois divinités astrales, Sin, le dieu lune, Ishtar, la déesse de l'étoile du matin, et Shamash, le dieu du soleil, les deux dieux du ciel, An, dieu de la voûte céleste, et Enlil, l'atmosphère, et ici donc Enkia, le dieu des eaux souterraines, donc vraiment le monde tel qu'il est, les divinités infernales avec Nergal au premier chef, et puis Marduk, le grand dieu de Babylone, avec son dragon et le soc de charrue, et Nabu, le dieu de l'écriture, Gula, la déesse de la médecine, etc. Donc vraiment, des dieux qui vont s'assurer que le contrat de cession de terre sera respecté. Et du coup, on peut rapprocher, modestement, ce type de stèle, les koudourous, avec un passage de la Genèse où, justement, une pierre dressée sert de témoin de traité entre Jacob et Laban, et parle justement de la répartition de leurs territoires respectifs. Donc peut-être que ce passage de la Genèse est un souvenir de ce type de stèle qui, par ailleurs, comme la stèle, encore une fois, des Anatoum, évoquait aussi la répartition des territoires. Alors, au bronze récent, en Syrie, eh bien, un endroit où on trouve énormément de stèles commémoratives ou cultuelles, eh bien, c'est la ville d'Ougarit, sur la côte syrienne, cette ville qui est vraiment le cœur commercial et culturel de ce bronze récent, où les populations syro-mésopotamiennes, le monde égéen, l'Égypte, bref, tout le monde se retrouve pour échanger, et ce qui fait la fortune de la ville d'Ougarit. Deux endroits vont nous intéresser particulièrement, si je les retrouve, le temple de Dagan et le temple de Baal, où ont été retrouvés une bonne partie des monuments que je vais vous présenter. Et voici l'une des stèles dédiées à Dagan, justement, enfin dédiée dans le temple de Dagan. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici une stèle qui ne porte que du texte, et un texte d'ailleurs assez court qui commémore un rite sacrificiel qui s'appelle le Pagrou, qui est célébré en l'honneur des défunts de la lignée royale et qui donne exactement le nombre et le type d'animaux que l'on doit sacrifier. Et on doit d'ailleurs la rapprocher d'une autre stèle également aniconique qui est celle-ci, et qui évoque également des rituels funéraires et qui a été découvert à Rachamra. Alors, donc voilà, là, l'importance rituelle et symbolique est entièrement portée par le texte. Vraisemblablement, elle a été installée dans le temple, donc elle est supposée finie, parce qu'on pourrait imaginer qu'elle est inachevée, et on a suffisamment d'espace en haut pour laisser la place à une représentation figurée. Pourtant, elle a bien été installée dans le temple, de même que cette autre stèle dont je vous ai parlé, qui, elle, laisse par contre beaucoup moins de place à une hypothétique représentation figurée. Alors, bien sûr, d'autres stèles représentent des images, même extrêmement schématiques, comme ici, cette toute petite stèle avec un symbole astral au sommet, et en dessous, alors ce qui a été... ce qui a été interprété comme étant un autel, mais ça peut très bien être tout simplement la représentation schématique d'une stèle à registre, comme il y en a encore à cette époque. Alors, vous avez ici la très belle stèle dite de l'Alliance, représentant vraisemblablement deux souverains. L'un d'entre eux est peut-être le souverain d'Ougarit avec cette coiffe ronde, et l'autre peut-être un souverain voisin. Et ils ont les bras posés, vous voyez le coude posé sur des objets sur une table. Ces objets, on a pensé que c'était les tablettes, donc où était inscrit peut-être le texte de cette alliance. Et donc ils lèvent la main l'un vers l'autre dans un geste qui évoque justement l'alliance. Et au-dessus d'eux, vous avez émergeant donc du bourrelet qui encadre la stèle, comme deux fleurs de lotus qui évoquent évidemment l'immortalité. Alors, on ne peut pas quitter Ougarit sans parler de la stèle du Baal Ophut, qui est également une stèle cintrée avec ce bourrelet qui détermine en fait la place où soit va être inscrit le texte ou soit va être sculptée l'image. Je n'en parlerai pas beaucoup puisque Monsieur Nier est là, je ne préfère pas dire de bêtises, même si hier à la visite on a eu une mise à jour très complète sur la représentation de cette stèle qui donc, vous montre le dieu Baal avec ses cornes et vraisemblablement un roi divinisé qui accueillerait justement, parce que vous voyez que, comme l'a rappelé Monsieur Nier, le roi ne regarde pas la divinité, il regarde devant dans le même sens qu'elle et il fait vraisemblablement un geste de bénédiction face aux visiteurs du temple. Visiteurs du temple où on a découvert également la stèle de Mami qui porte la dédicace à Baal. Baal qui chez les Égyptiens est associé au dieu Seth qui combat le serpent du chaos sur la barque du soleil. Alors ces stèles égyptiennes dédiées par des Égyptiens à des dieux cananéens, on en trouve beaucoup sur la côte du Levant et notamment à Beth-Shean, comme ici. Attendez. C'est la stèle dite de Mekal, et c'est une stèle funéraire, encore une fois, où donc les deux personnages sont devant un dieu vraisemblablement un dieu justement cananéen avec sa longue coiffe qui rappelle la couronne de Haute-Égypte et cette espèce donc de longue traîne habituelle dans les représentations levantines, et il a face à lui donc un architecte et son fils qui sont en adoration devant lui. On va passer donc sur cette stèle de la déesse Anat. Vous voyez que elle est en basalte, un matériel local très. Et pour venir justement à ce dont je vous parlais en fait, c'est que les Égyptiens donc ont travaillé sur place au Levant Sud avec du basalte local, mais vous le voyez ici, cette stèle donc de Séti Ier qui commémore sa reprise finalement du pouvoir au Levant Sud après l'affaiblissement à la fin de la 18e dynastie. Eh bien, Séti Ier va essayer de mater une révolte de plusieurs villes autour de Beth-Shean et il va commémorer sa victoire par cette stèle de victoire, dite la première stèle. Il en a fait également une deuxième qu'on va voir juste après, qui est malheureusement en moins bon état. Et là, vraiment, c'est bien un artiste égyptien qui a façonné donc cette stèle, encore une fois vraisemblablement sur place, avec du basalte local au Levant Sud. Et la stèle a été dédiée dans un des temples de Beth-Shean. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette stèle a été réutilisée dans un autre temple à l'époque de transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer, et elle a été découverte non pas là où elle a été dédiée, mais là où elle a été réutilisée. Donc, cette stèle a une composition assez habituelle donc de, dans l'art égyptien. Vous avez la première partie qui est une représentation figurée de la dédicace aux dieux. Donc Séti Ier fait des offrandes à Re Horarti sous un disque solaire ailé, et vous avez le nom des personnages qui est indiqué ici. Et en dessous, vous avez un long texte qui, au départ, est une longue prière du roi mettant en avant son talent, qui provoque la peur chez ses ennemis asiatiques. La ligne 14 à 22, on a vraiment l'histoire de justement cette victoire militaire. En fait, le roi va envoyer trois divisions pour mater la révolte. Une première division qu'il appelle la division d'Amon, qui va détruire l'ennemi principal, la ville de Hammat, à ne pas confondre avec Hamat en Syrie. Puis la division de Re, qui va reprendre la ville de Beth-She'an tombée aux mains des ennemis. Et enfin, la division donc, de Set, qui va conquérir une ville alliée de Hamat, la ville de Yenoam. Et donc voilà pour la présentation de cette stèle, vous voyez, qui est posée donc, sur une base vraisemblablement plus récente. La deuxième stèle de Séti Ier, vous le voyez malheureusement, est beaucoup moins bien préservée. On a juste les jambes des personnages et un texte extrêmement abîmé qui évoque néanmoins la lutte contre le blocage d'une attaque de personnages nomades qu'on appelle les Apirou, que vous connaissez tous. Alors, à cette époque, sur le territoire de Moab, donc au bronze récent, on a un seul exemple, à ma connaissance, de stèle produite par des artisans locaux. C'est la stèle de Balois, donc qui a été effectivement retrouvée en 1930. Et vous le voyez, ici, on va imiter les stèles égyptiennes. Mais ce qui est un peu saugrenu et qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est que le texte est sur le sommet de la stèle alors que l'image est en dessous. Et c'est à peu près le seul exemple que je connaisse. Et autre chose importante, vous voyez cette stèle avec néanmoins donc cet espace toujours délimité pour créer l'image. Eh bien, la stèle, en réalité, n'a pas été cintré, proprement sculpté comme celle qu'on vient de voir et qu'on verra par la suite, mais au contraire, un peu comme la stèle de la chasse au tout début, elle suit les formes du bloc originel qui n'a pas été véritablement, qui n'a pas été retravaillé pour créer la stèle cintrée. Alors, on a sinon une présentation d'un roi, en tout cas d'un personnage important, ici au centre, accompagné d'une déesse portant la coiffe Atef, qui est assez systématique dans la représentation des déesses levantines, face à un dieu qui est coiffé du pshent, la couronne de haute et basse Égypte, qui est un peu schématisée, et qui, à l'aide de son sceptre Was, va légitimer évidemment son pouvoir. Alors, il y a deux représentations originales, c'est sur les épaules du roi, un croissant de lune et un disque inscrit dans un croissant, qui eux sont plus, qui sont des éléments culturels plus proches du monde syro-mésopotamien. Et donc là, vous avez, par un artiste local, l'assimilation justement de deux influences, celle du monde syro-mésopotamien et du monde égyptien. Alors, l'inscription, malheureusement, donc elle fait 6 ou 4 lignes, on ne sait pas bien, et dès la découverte dans les années 30, on avait considéré qu'elle était illisible. Donc malheureusement, on n'a vraiment aucune idée du contenu du texte. Alors plusieurs propositions ont été faites pour le type d'écriture, mais là encore, est-ce que c'est du linéaire B, est-ce que c'est du hiératique égyptien ou autre chose, il est malheureusement impossible de le dire. Alors, on continue également à avoir des stèles qui sont dédiées dans des lieux de culte et qui manifestement ne comportent pas un acte guerrier. Vous avez ici le petit temple de la ville basse de Hatzor qui hébergeait dans une seule pièce, ça c'est là, eh bien, cet ensemble de stèles, cette fois-ci qui rappelle un peu la pierre dressée de Marie. L'une d'entre elles est gravée de deux mains qui manifestement évoquent un geste d'adoration vers un disque dans un croissant. Alors le disque dans un croissant, c'est un motif qui est né en Babylonie à l'époque paléo-babylonienne et qu'on retrouve systématiquement sur les sauts cylindres représentant la rencontre entre le roi et la divinité. Donc c'est clairement un symbole de la divinité. Est-ce que le personnage assis qui est ici est une représentation de la divinité adorée dans le temple? Ça, je laisse d'autres que moi le dire. Mais alors, quelle est la fonction et la signification des stèles qui sont ici, qu'elles soient gravées ou non? Est-ce qu'elles commémorent le passage d'un adorant? Est-ce qu'ici... parce que là, encore une fois, sont-elles la demeure du dieu comme dans les Masbotes? Je ne préfère pas m'avancer, on est encore une fois au bronze récent. Et on peut imaginer peut-être plutôt la dédicace d'objets, donc ces stèles, à la divinité. Alors sachez cependant que beaucoup plus au nord, chez les Hittites, on a un véritable culte des pierres qui est véritablement renseigné par les textes. Mais ces pierres sont plutôt naturelles et sont dans des sanctuaires extérieurs et elles sont la manifestation du culte des forces de la montagne notamment. Et donc, est-ce qu'on peut les rapprocher d'objets ici qui sont particulièrement bien taillés dans un sanctuaire au cœur d'une ville? Je pense que ça me paraît délicat, mais possible. Alors, à la fin de l'âge du bronze, vous le savez, tout le Proche-Orient est extrêmement bouleversé par des mouvements de population, par l'effondrement de l'Empire hittite et la destruction de villes comme Ougarit. Et une nouvelle organisation se met progressivement en place, tant au nord du Levant qu'au sud du Levant. Mais cette mise en place se fait extrêmement rapidement au Levant Nord et notamment dans les premiers royaumes néo-hittites, sujet de l'expo du 2 mai 2019 au Louvre. Malheureusement, la stèle de Karayuk n'y sera pas. En fait, l'un de ces royaumes, c'est le royaume de Carchemish, qui était le relais du pouvoir des Hittites à l'époque de l'Empire, au bronze récent. Et contrairement à ce que dit Ramsès III à Medinet Abou, eh bien, les peuples de la mer n'ont pas rasé Carchemish, parce qu'on a découvert plusieurs textes, et notamment surtout une empreinte de sceau qui évoque la continuité du pouvoir entre les gouverneurs de l'époque impériale et les grands rois, puisque justement donc les dirigeants de Carchemish reprennent le titre des rois hittites pour s'appeler donc justement grand roi, comme c'est le cas ici dans la stèle de Karayuk qui a été découverte dans les environs de Carchemish. Là encore, c'est une stèle qui évoque différentes choses et qui est une stèle, vous le voyez, qui est uniquement inscrite. Et dans le monde néo-hittite et araméen, il y a beaucoup de stèles qui ne portent que du texte, comme celle-ci. J'en ai choisi un exemple, je dirais parmi tant d'autres, et d'un royaume important. Elle date vraiment de cette époque de transition. Là, on est encore au 12e siècle, donc dans ce moment où où le Proche-Orient se réorganise. Alors, elle est écrite en hiéroglyphes louvites, ces hiéroglyphes qui étaient la marque des textes des... je me rends compte qu'il va falloir que j'accélère un peu. Ces hiéroglyphes louvites qui étaient utilisés à l'époque impériale pour les sceaux royaux et également pour les inscriptions monumentales. Et ça, ça va rester à l'époque néo-hittite, comme vous le voyez ici. Bon, hiéroglyphe louvite dont on n'a pas encore véritablement trouvé l'origine. Alors, elle raconte, cette stèle a été dédiée à un dieu de l'orage qui s'appelle le dieu de l'orage du pays, donc un dieu de l'orage local, comme il en existe beaucoup dans le monde hittite, et par un certain Aramani, qui est vraisemblablement un grand officier, parce qu'il évoque justement un grand roi de Carchemish, Irteshub, qui va, en remerciement vraisemblablement des services et du travail d'Aramani, lui donner trois villes à diriger, et le reste du texte évoque les hauts faits d'Aramani et d'Irteshub. Donc là, on est encore une fois dans une stèle commémorative qui remercie finalement le dieu de la bonne entente entre le grand roi et l'un de ses plus fidèles sujets. Alors à Carchemish même, vous le voyez, on commence une autre stèle qui commémore la victoire d'un roi de Carchemish dont le nom n'est pas connu, on ne connaît ce nom que sous la forme des hiéroglyphes. Et donc les hiéroglyphes louvites dont on ne peut pas donner alors, en fait, on va appeler ce roi Magnus Tonitrus, parce que effectivement les hiéroglyphes louvites, on leur donne un équivalent en latin, et on ne connaît pas le nom hittite de ce roi, on ne le voit que sous la forme de hiéroglyphes. Donc appelons-le Magnus Tonitrus, qui est un roi de Carchemish et qui commémore sa victoire sur Adana. Et en fait, la stèle elle-même n'est pas dédiée directement par le roi, mais par l'un des prêtres de Kubaba, qui est un fils d'un autre roi néo-hittite. Et cette stèle a été dédiée dans la cour du dieu de l'orage de Carchemish. Alors, au sommet de la stèle, vous avez le disque inscrit dans un croissant, disque solaire ailé, qui est finalement très typique de l'indication de la divinité dans son ensemble, et qui est, vous le voyez, un assemblage entre le disque au croissant d'origine mésopotamienne et le disque solaire ailé égyptien, et qui est la marque en fait du monde syro-anatolien et des royaumes néo-hittites. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ces stèles qui ont été découvertes en 2008 dans le sud de la Turquie, quasiment à la frontière avec la Syrie, les deux stèles d'Arsouz, qui sont également des stèles de commémoration de victoire d'un certain Supiluliuma. Donc vous voyez que même à l'époque néo-hittite, on garde le souvenir de la grande époque impériale. Et là, par contre, vous avez sur la face de la stèle une représentation figurée. C'est le dieu de l'orage, toujours sous le disque solaire ailé. Derrière lui, peut-être, la représentation du souverain. Le dieu de l'orage est représenté sur son taureau, hein, l'un des deux taureaux qui tire son char. Et ici, il est plutôt représenté sous la forme du dieu de la fécondité qui va faire pousser la végétation avec ses eaux bienfaisantes, puisque vous avez donc cette représentation végétale. Derrière, un texte toujours en hiéroglyphe louvite qui évoque donc les victoires de ce Supiluliuma, qui est fils du roi Mana, le roi du pays de Valastine, donc, dont la capitale se trouve sur le site de Tel Tainat, dans la plaine de Lamouk. Alors évidemment, à la même époque, en Assyrie, on fait des stèles encore plus impressionnantes, comme ici la stèle d'Assurnasirpal II, qui était donc installée à Nimroud, dans un des temples. Le roi prend toute la... On retrouve un peu cet héritage mésopotamien, donc de l'inter... où on intercale les figures et le texte. Le roi assyrien, reconnaissable à sa tiare tronconique à boutons, et ici donc les dieux figurés par leurs symboles, un peu comme sur les coups de roue que nous avons vu, le coup de roue que nous avons vu précédemment, et évidemment donc l'annale de ces hauts faits. Vous voyez que typique de Nimroud, le texte enjambe la robe du souverain. Alors, donc tout ceci, on est plutôt dans le nord de ce monde syro-mésopotamien. Dans le sud, dans le Levant sud, eh bien, et notamment donc en Israël, à Juda et dans les pays Ammon, Moab et Édom, eh bien, on a vraiment un hiatus dans la construction monumentale, contrairement à ce qu'on a vu à Carchemish. Et donc les monuments, en tout cas que moi j'ai pu que je vais vous présenter, datent justement plutôt du 9e siècle, à partir du moment où ces royaumes sont de nouveau suffisamment riches pour construire des grands bâtiments, des villes fortifiées et des monuments, comme par exemple la stèle dite de Shihan, dont j'en parlais encore une fois la dernière fois. Alors, je vais me permettre, à moins que Rigi ne soit pas d'accord, de montrer une photo de la découverte qu'elle a faite dans les... Donc, parce qu'au départ, cette stèle... Alors, il y a eu beaucoup de littérature dessus. On a pensé qu'elle datait d'époques extrêmement variées et qu'elle représentait des personnages extrêmement variés, et notamment le fameux dieu Kamosh ou Kemosh, évoqué dans la stèle de Mécha. Mais vous voyez, la sculpture est extrêmement fragmentaire, elle a été retaillée, on ne connaît pas ni sa taille originelle, ni sa forme originelle. Est-ce que c'était d'ailleurs même une stèle? Ça pouvait très bien être un orthostate. Le personnage est représenté avec une lance. Est-ce qu'il est en train de tuer un serpent comme Seth dans les motifs égyptiens? Parce que là, vous voyez très clairement que le pagne est égyptisant et montre toujours, à l'âge du fer, même plusieurs centaines d'années après, l'imprégnation de la culture égyptienne, qui maintenant se fait surtout plus par le commerce que par... elle se fait aussi un peu par la guerre quand même. Vous avez ce long pendant derrière la coiffe du personnage qui malheureusement est endommagée. Alors, est-ce que c'est toujours cette longue traîne des dieux syro-levantins qu'on connaît depuis l'âge du bronze? Un article récent suppose que c'est plutôt la queue d'un singe, et que là, un singe dont on aurait la patte arrière ici représentée. Bon, attendons de voir. Je suis un peu circonspect sur cette interprétation, mais pourquoi pas. Moi, après, je trouve quand même que la spirale ici évoque pas mal quand même ce qui s'est fait avant. Et en dessous, donc, un animal qui a été interprété comme étant un lion, mais qui manifestement est plutôt un rapace, un faucon. Donc, on a souvent pensé donc, que c'était Kamosh, mais pas que. Mais la découverte, justement, à la direction des antiquités de Jordanie, dans leur collection archéologique, d'un personnage qui, vous le voyez, regarde dans l'autre sens, mais qui a un visage extrêmement semblable à celui de la stèle de Shihan, et vous voyez qui est torse nu. Alors on voit aussi la lance, mais moi je ne la vois pas très bien là sur... voilà, donc qui manifestement devait tenir une lance. On serait plus finalement donc dans une paire de personnages. Alors vous voyez que le personnage porte sur sa tête le rabet, c'est-à-dire l'espèce de tige spiralée de la couronne de Basse-Égypte, mais ici évidemment réinterprétée localement. Et donc, qui laisserait à penser qu'il a à voir avec le monde divin, peut-être un génie ou peut-être effectivement une divinité, et que donc il faudrait rapprocher ces deux fragments de sculpture qui seraient peut-être tout simplement deux jambages de porte à l'entrée d'un temple, donc plus des dieux gardiens que la représentation du grand dieu de Moab. Alors, au royaume araméen de Geshur, on a par contre une stèle là, qui est véritablement une stèle cultuelle représentant la divinité. Alors, quelle divinité? Le dieu de l'orage n'est, enfin, à ma connaissance, jamais représenté avec une tête de taureau, mais le dieu de l'orage est associé au taureau. Donc, pourquoi pas ici une représentation de Hadad? J'ai lu aussi qu'il était associé à Sin. Et cette stèle, vous la voyez ici remise un peu en contexte avec, avec un autel devant pour les offrandes et une stèle, encore une fois, sculptée. Mais est-ce qu'elle était préparée pour recevoir du texte ou est-ce qu'elle était dédiée comme celle-ci, un peu comme dans le... Comment dirais-je dans le temple aux stèles plus ancien de Hatzor. Difficile de le dire. Alors, la stèle de Mécha, donc, la stèle de Mécha qui n'est donc pas la seule stèle moabite, hein, je pense que la plupart d'entre vous le savent, il y a notamment cette inscription qui évoque la victoire d'un roi de Moab contre Amon, et bien entendu, la stèle de Tel Dan, qui est aussi donc un ouvrage araméen, vraisemblablement de Hazael, qui raconte sa victoire sur Israël et donc la maison de David. Et ce qui est intéressant sur la stèle de Tel Dan, c'est qu'elle a été retrouvée près de l'entrée de la... Alors évidemment, les trois morceaux de la stèle ont été retrouvés, réutilisés dans des pavements, dans des murs, et ça a été rassemblé, mais ils ont été retrouvés relativement proches de l'entrée de la ville, ce qui laisse à penser que peut-être cette stèle se trouvait installée dans les fortifications de la porte de l'entrée de la ville pour que, évidemment, les visiteurs, ceux qui rentraient dans la cité, pouvaient voir cette commémoration de la victoire d'Azaël sur ses ennemis. Alors, cette stèle était-elle comme la stèle de Mécha, à savoir une stèle purement textuelle, ou est-ce qu'elle était comme la stèle de Zakour, découverte à Asphis, une stèle mêlant, comme plus généralement, une image, l'image du souverain au-dessus, et le texte racontant la victoire, ici la victoire de Zakour contre une coalition d'États qui vont l'assiéger et grâce à Baal Shamin, il va évidemment réussir à s'en sortir. Alors, voilà un peu brièvement présenter ces monuments qui pouvaient donc être installés aux portes des villes ou dans les temples des dieux pour les remercier évidemment de la victoire et donc cette stèle de Mécha qui peut être à mon avis héritière d'un ensemble de cultures syro-mésopotamiennes, levantines et peut-être égyptiennes aussi, encore une fois parce que la marque laissée sur le territoire a été assez importante. Et je terminerai par la stèle de Yeovmil, qui est bien plus récente à l'époque perse, mais où on retrouve tous ces éléments un peu égyptisants et également levantins, avec donc cette représentation donc Yeovmil en prêtre perse devant la dame de Byblos sous un disque solaire ailé qui n'est pas complètement égyptien à mon avis. Et avec donc le texte en phénicien au-dessous. Bon, j'ai dépassé, je vous remercie en tout cas de votre attention.